Donc, la présentation que je veux faire aujourd'hui, donc à qui j'ai donné le titre, je devais penser à Raymond Carver en faisant le titre, donc de quoi on parle quand on parle de narrativité. Je disais justement poser une question et à me lancer sur le mode de la question, c'est ce qu'on m'avait invité à faire. En répondant, c'est dommage que Joanne Lalonde ne soit pas là aujourd'hui parce qu'en fait, je voulais boucler une ostination avec Joanne Lalonde. Bon, on s'ostine toujours avec Joanne Lalonde de toute façon, mais que j'ai eu il y a vraiment assez longtemps avec elle, dans le fond, quand on développait encore en vitesse grand V le laboratoire NT2. Donc, Joanne, au moment d'une réunion, nous faisait un peu la leçon aux étudiants. Et aux profs qui étaient là, développer un vocabulaire pour le répertoire, un vocabulaire critique pour les manifestations, donc d'hypermédia, d'hypertexte, etc., en nous disant, à nous les littéraires, qu'il y avait quelque chose d'amusant pour quelqu'un qui venait d'histoire, d'histoire et de pratique des arts, à la façon dont on manipulait les thèmes, les concepts de texte et image. Donc on était bien sûr très très porté, moi le premier, à problématiser énormément le terme de texte en utilisant image comme quelque chose, un allant de soi littéralement, alors que pour elle, évidemment, dans les deux thèmes, c'était exactement le contraire, c'est-à-dire dans les deux termes, c'était image qui était éminemment problématique. Et donc, on était resté sur cette destination-là, elle m'avait posé la question à moi, donc est-ce qu'il y a un usage d'un terme littéraire, de la théorie littéraire qui t'agace ou que tu retrouves comme ça dans son usage, soit dans le domaine des arts ou dans son utilisation courante. Et spontanément, à l'époque, je pense que je venais d'aller voir une exposition de photos. J'avais répondu justement la narrativité, le narratif, en tant qu'il s'applique à des objets non-verbaux ou non-textuels. C'est-à-dire qu'on va, et souvent, même dans le vocabulaire, même pas tant de la théorie, c'est-à-dire, bon, je le dis, je suis allé voir une expo, c'était ce côté, tout à coup, on regarde une photo, on va dire, cette photo est narrative. Alors que, bien sûr, bon, pour le théoricien du récit, il y avait quelque chose qui gossait un peu, c'est-à-dire, comment une photo pourrait-elle être narrative? Et donc, j'étais resté sur cette idée-là de m'expliquer, à un moment donné, à moi, cette espèce de réserve-là, donc déjà à partir de ce premier colon. Donc, c'est ce que je veux faire aujourd'hui, je vais prendre le cas de la photo, je vais en prendre quelques autres aujourd'hui, de cas où on utilise la narrativité, le narratif en tant que qualité à apposer à des objets non-verbaux, non-textuels. Donc, la photo d'une part, je vais parler donc du discours politique un petit peu en faisant écho au storytelling chez Christian Salmon et je vais finir vers cette espèce d'explosion du storytelling aujourd'hui dans le vocabulaire communicationnel et de la publicité et des médias en général, ou tout. Maintenant, on ne va plus au restaurant pour manger, on va au restaurant pour se faire raconter une histoire comme s'il était, je pense, à Chief's Table, entre autres, sur Netflix. Est-ce qu'il y en a qui regardent ça? C'est, bon, donc, tous les chefs, les grands chefs du monde, maintenant, sont des raconteurs d'histoires, par exemple, comme s'il était absolument nécessaire aujourd'hui, non seulement de manger des rognons de veau, mais de connaître le nom du petit veau qui a comme ça sacrifié ses reins à notre souper. C'est pas vraiment ça qu'on fait, mais donc, il y a cette mythification-là de toute pratique comme étant une pratique de la narrativité ou du storytelling. Donc, première réflexion, donc cette idée-là, et j'étais content en faisant mes recherches de trouver la même résistance que j'avais eue à l'époque chez des photographes qui eux-mêmes, Marc Meyer, entre autres, sur son blog, faisait une réflexion très intéressante sur le fait de cette non-narrativité ou de cette résistance à la narrativité dans la photographie, alors que le terme est devenu, bon, aussi dans la photographie, littéralement, un buzzword. Donc, il faisait un peu l'histoire hein, donc de cette espèce d'instinct de la narration qu'il y a toujours eu dans le discours autour de la photographie, ne serait-ce qu'à partir du photoreportage de Cartier-Bresson, par exemple, avec l'idée d'instant décisif. J'aurais dû partir sur Bresson avant d'aller à la Renaissance, donc derrière la gare Saint-Lazare. Donc, cette idée hein, qu'on va relancer tout à coup, qu'il y a quelque chose de narratif dans une photographie qui implique un mouvement, qui implique quelque chose, une anecdote en potentialité, si on veut. Donc, ce sur quoi insiste Meyer, bien entendu, en servant d'une définition qui est celle de Jérôme Bronner, donc le psychologue américain, je vais lire le psychologue américain qui a fait une espèce au début des années 90, qui a fait une espèce de résumé des grandes philosophies narrativistes en proposant la définition. Donc, a narrative is an account of events occurring over time. Donc, l'idée de succession était évidemment ce sur quoi insiste d'abord Meyer, disons, la photographie est bien mal prise pour établir toute forme de récit, ne serait-ce que parce qu'elle ne produit, bon, typiquement qu'une seule, image, et s'interdit à la base, dans son constat, dans son contrat initial, toute forme de succession. Et c'est intéressant parce que ça faisait écho pour moi à un beau livre de Scott McCloud, donc le BDiste et théoricien de la BD, qui a écrit un livre qui s'appelle Understanding Comics dans les années 90 également. Et donc, où il qualifiait la BD, il essayait de tracer l'origine de la BD dans une antériorité plus grande que la modernité, en remontant à son principe qui était pour lui celui de l'art séquentiel. Et bien sûr, l'exemple qu'il allait prendre, c'était littéralement donc certaines parois de la grotte de Lascaux, par exemple, où on avait l'impression, donc où certains paléontologues et théoriciens de l'art, après, ont pu constater que, à tout le moins proposer l'interprétation que dans certains panneaux, on n'avait pas, par exemple, ici, le dessin de plusieurs chevreuils, mais le dessin, dans ce cas-là, de la nage d'un chevreuil. Donc, on avait tout à coup la représentation d'un mouvement par la reprise de plusieurs images successives. Donc, tout à coup, pour McCloud, il y avait cette idée de, finalement, de séquentialité qui était très, très importante. Et je pense que, bien sûr, si on se rapporte aux grandes définitions de l'âge, bon, du premier âge, du grand âge narratologique, si on veut, on va voir cette apparition-là, on va voir cet élément-là apparaître. Donc, je cite Bromont, entre autres, dans La logique des possibles narratifs, qui a donné une définition assez complexe, mais qui va me servir aujourd'hui. Donc, je le cite. « Tout récit consiste en un discours intégrant une succession d'événements d'intérêt humain dans l'unité d'une même action. » Où il n'y a pas succession, il n'y a pas récit, mais par exemple description, si les objets du discours sont associés par une continuité spatiale, déduction s'ils s'impliquent l'un l'autre, effusion lyrique s'ils s'évoquent par métaphore ou métonymie, etc. Où il n'y a pas d'intégration dans l'unité de l'action, il n'y a pas non plus récit, mais seulement chronologie, énonciation d'une succession de faits incoordonnés. Où enfin il n'y a pas implication d'intérêt humain, où les événements rapportés ne sont ni produits par des agents, ni subis par des patients anthropomorphes, il ne peut y avoir de récit, parce que c'est seulement par rapport à un projet humain que les événements prennent sens et s'organisent en une série temporelle structurée. Donc l'argument de Meyer, revenant là-dessus, et pour revenir à la toile de Gonzoli que j'avais au départ, donc la danse de Salomé et la décapitation de Saint-Jean-Baptiste, donc Meyer, et je pense que son exemple était assez bon là-dessus, donc Meyer insistait sur le fait qu'on avait tendance à l'oublier, mais en peinture, la pratique d'une certaine narration par division de l'image fixe en scène existait. Donc là, dans le cas de cette image-là, on a carrément, donc on a la danse de Salomé, on a et la demande, on a bien sûr bon la décollation de Saint-Jean-Baptiste à la fin, la présentation de la tête. Donc sur la même image, il y a trois scènes, il y a trois moments temporels. Et donc Meyer va dire, donc c'est quelque chose qui existe assez tardivement, même de façon plus même d'une façon plus tardive, là, je pensais aux romantiques anglais comme Turner, donc précurseur de l'impressionnisme, dans les grands tableaux très maximalistes de Turner, où souvent il va avoir pas une contingence aussi évidente que chez Gonzoli, mais un genre de simultanéité un peu problématique. Donc bien sûr, cette toile-là, c'est la cinquième plaie d'Égypte. Donc, la cinquième plaie d'Égypte, c'est la mort des troupeaux. Donc, il y a une espèce de d'animal, de vache morte là, mais en même temps, on a l'impression qu'il y a plusieurs autres plaies qui sont en train de se préparer dans la toile. Donc, comme dans d'autres toiles de Turner, par exemple, donc je ne suis pas très pop aujourd'hui, je m'en rends compte, mais en fait, c'est pas grave, je vais rester pop dans l'esprit. Donc, dans le naufrage du Minotaure qu'on a souvent comme ça, j'ai toujours l'impression, déjà parce que le tableau tellement grand implique un déplacement spatial, ne serait-ce que du regard sur sa surface, de présenter une unité temporelle finalement qui est fracturée. On a l'impression qu'il y a un moment qui passe dans le tableau. Et bien sûr, l'argument de manière, c'est de dire la photo ne peut pas faire ça. Donc, même à comparer de l'image fixe en peinture, elle serait encore moins prompte à produire, finalement, de la narrativité. Donc, il y a quelque chose d'assez fascinant là-dedans pour moi. Donc, d'une certaine façon, on se retrouve avec deux constants, à bien des égards, rendus là, c'est dire, ben, d'une part, où commence cette espèce d'élargissement? C'est-à-dire, si on accepte que tout à coup, la narrativité, storytelling, l'adjectif narratif lui-même peuvent être apposés à droite, à gauche, à des objets non-verbaux, à des objets qui ne nous apparaissent pas comme étant des récits complets en tant que tels, où commence l'élargissement? Et là, je me suis amusé donc à aller lire. Ben là, on va ne serait-ce que se parler sur notre ami Gérard, parce que bien sûr, bon, la première idée que j'ai eue, ça a été de revenir à Frontières du récit, donc l'article légendaire de Genette dans Communication numéro 8, repris dans Figure 2 et dans l'analyse structurale du récit. Donc, dans cette idée hein, que Genette, partant d'une définition du récit classique, je le cite, « Si l'on accepte par convention de s'en tenir au domaine de l'expression littéraire, on définira sans difficulté le récit comme la représentation d'un événement ou d'une suite d'événements réels ou fictifs par le moyen du langage et plus particulièrement du langage écrit. » Donc, prends cette définition un peu instinctive du récit-là pour finalement essayer de définir, ce sont ces termes, le récit négativement à partir d'un certain nombre d'oppositions. Les trois oppositions étant bien sûr... je l'ai fait dans le désordre, narration et description, récit et discours, et la première, mimésis et diégésis, donc en revenant sur Platon et Aristote. Et ce qui est intéressant pour moi, dans cette époque-là, dans la façon dont cette époque-là, et dont Genette va relire dans cet article-là, Platon et Aristote, c'est justement en revenant sur cette question de la mimésis, donc de l'imitation, de dire... On en revient, je ne veux pas refaire la distinction entre les deux, entre Platon et Aristote là-dessus. Ce qui est important de retenir, c'est l'idée qu'on distingue dans l'Antiquité l'imitation directe et l'imitation narrative. Ce sont les termes de Genette. Donc, mimésis comme la représentation théâtrale, la poésie dramatique pour l'époque, diégésis comme la poésie narrative, donc le dithyrambe, l'épopée. Et ce qui semble assez intéressant par rapport à ça, et là où je dis que pour moi, il y a déjà là le premier élargissement, c'est que Genette va régler cette aporie-là en disant, finalement, quand on y pense et quand même on sert de Platon contre lui-même, Platon dit il n'y a pas d'imitation directe, il n'y a pas d'imitation parfaite, l'imitation parfaite devient la chose elle-même. Donc, si on se place du point de vue de l'imitation de l'expression littéraire, finalement, il n'y a que diégésis, il n'y a que de l'imitation narrative à laquelle on va prêter toutes sortes de formes. Et c'est comme si, pour moi, il manquait dans Frontières du récit une opposition dont on se préoccupe très, très peu à l'époque et peut-être même depuis, qui est celle entre narration et récit à proprement parler. C'est-à-dire que l'esprit structuraliste de l'époque et l'esprit qui est presque proto-intermédiatique d'une certaine façon, accepte assez vite de dire on va accepter comme récit, même si on revoit dans toutes les définitions que je donne, revoir l'idée de discours, revoir l'idée de compte-rendu, account, de témoignage littéralement, on va toujours accepter finalement, d'élargir, on est en période d'élargissement de ces concepts-là, de toute façon, la notion de récit à des formes qui ne sont pas des formes de narration, hein, qui ne sont pas le fait d'un narrateur, donc le théâtre, le cinéma, et donc tu me voyais tout à l'heure réagir, ben, on en reparlera, mais je pense que je me suis aperçu, dès les recherches que je faisais pour ma thèse, un peu de ce, non pas de ce problème-là, mais de cette espèce d'impensée qui traînait en lisant, entre autres, Brannigan et Bardwell, donc les deux grands théoriciens américains qui ont essayé d'appliquer la narratologie genettienne et princienne au cinéma, et qui sont à la fois deux tentatives, leurs deux bouquins sont à la fois des tentatives hyper rigoureuses, mais avec lesquelles on reste toujours avec l'idée de... Il n'y a pas de narrateur au cinéma, ou si un narrateur, il est... C'est-à-dire, on ne comprend pas la différence véritable entre un narrateur diégétique et le narrateur presque, et là on s'en parlera aussi, le narrateur liminal de la fiction écrite, et de la fiction surtout orale. Hein? C'est-à-dire que, là je vais revenir à une forme de récit plus pop, mais là je veux qu'on s'en parle tout à l'heure, mais c'est l'idée que si on prend ce que font pas Platon, ni Aristote, ni Genette, parce qu'on est toujours à l'expression littéraire comme fait premier, mais si on prend la littérature orale ou l'orature comme fait premier, le narrateur d'une histoire est une créature fondamentalement métalleptique. Et quand on est en train de raconter une histoire, moi, mon histoire préférée, au Point du feu avec les enfants, donc celle qui raconte que dans l'île, à côté du camping, il y avait le maniaque à la hache ou la sorcière de l'île, ou peu importe, moi, je fais plus le maniaque à la hache. Et donc, on est en train de raconter le maniaque à la hache, et bien sûr, on arrive vers la conclusion. Hein, donc, on crée déjà un rapprochement et dans l'espace. Donc, ça se passe ici, une distance faussement rassurante dans le temps. C'est arrivé il y a 10 ans, le maniaque à la hache a tué toute la famille dans le camping, etc. Donc, hein, il y a cette espèce de proximité un peu troublante. Et bien sûr, on arrive au moment toujours génial de la fin de l'histoire où on pose la question aux enfants, et pensez-vous qu'ils ont attrapé le maniaque à la hache? Les enfants disent, je sais pas. Et là, on dit, non, ils n'ont pas attrapé parce que le maniaque à la hache, c'était moi. Et là, il y a ce moment où les enfants partent à pleurer, mais c'est un moment, surtout si tu le fais de façon trop convaincante, mais c'est un moment métalleptique par essence où tout ça, toutes ces frontières-là viennent d'arriver. Et ce qui me fait dire que, même si c'est juste un exemple spectaculaire de ce qui se passe, par définition, le narrateur oral est métalleptique, donc vraiment dans un va-et-vient métalleptique constant. Donc c'est ce que je me disais, on rebondira là-dessus, mais il y a quelque chose d'assez fascinant à dire que si on revient à des pratiques d'orature, finalement toute cette question de la métalepsie-là ne devient pas quelque chose que la culture populaire aurait emprunté au fil du temps à la haute ou à la postmodernité, mais quelque chose finalement qu'elle redécouvrirait ou qu'elle reprendrait dans un bagage assez ancien, assez fondamental. Je referme cette immense parenthèse-là, mais donc la question de l'élargissement, pour moi, c'est donc ce premier moment-là nous ramène à ça, et on se rend compte que finalement l'élargissement, il a toujours été là. Donc même si on voudrait se mettre à jouer les polices de l'usage du terme narrativité, narratif, bon, etc., on serait un peu on pourrait difficilement le faire parce qu'au final, on s'est mis à jouer ce jeu-là nous-mêmes comme théoriciens depuis assez longtemps. L'autre chose, et là, quand je dis que j'aime à rester populaire de méthode, c'est de dire que dans l'ethnologie, la sociologie, la culture populaire, on a toujours tendance à, plutôt que de rejeter les usages vernaculaires, à essayer de les comprendre et à essayer de voir à partir d'eux qu'est-ce qu'on peut dire de nos objets. C'est ce qui m'intéresse de faire finalement. Donc, au final, devant la photographie, l'idée de la narrativité de la photographie, bon, je me rendais compte que ce qui était intéressant, c'était moins d'aller faire la police et de défaire l'argument que d'aller se demander finalement qu'est-ce qui nous pousse à utiliser ce terme-là et comment il nous semble justifié dans le moment. Pour quelles raisons il nous semble justifié dans le moment. Et finalement, je me rappelais aussi, c'est-à-dire que il y a un exercice que je fais quand j'enseigne en création, quand je donne des ateliers pour travailler sur la description et souvent sur la narration, c'est de... Ben là, j'ai sorti des tableaux de... La plupart du temps, c'est des tableaux de Hopper que je vais prendre, mais donc... Je vais m'amuser avec les étudiants à dire on va partir d'une toile pour en arriver soit à une amorce de récit, soit à un début de description. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de dire, et là je me faisais la morale à moi-même, c'est de dire je pense que j'ai qualifié très très souvent la peinture d'Hopper moi-même de narrative, donc je ne pourrais pas dire que j'ai pas péché. Et en même temps, ça me semble tout à fait sensé. Et donc, ce qui devient assez intéressant pour moi, c'était finalement de comprendre que, alors qu'en théorie, puis surtout en théorie strictement littéraire, on avait tendance à penser de plus en plus la narrativité d'une certaine façon, à la récupérer dans des définitions plus englobantes, plus maximalistes. Il y a un beau blog, il y a un beau cahier de recherche dont je me suis beaucoup servi cette semaine, et dont je ne parlerai pas beaucoup, qui est celui de Nicolas et René Odette. Nicolas Xantos et René Odette, Penser la narrativité contemporaine, vous pouvez le retrouver comme ça. et donc où ils font une espèce d'état des lieux de ces questions-là, mais souvent on se rend compte que issu de la théorie littéraire elle-même, souvent les définitions de la narrativité, comme chez Philip Sturgess par exemple, vont tendance à être pas englobantes, mais aller vers une complexité qui est d'abord et avant tout celle du matériau romanesque. Donc chez Sturgess, entre autres, il y a cette idée-là que pour lui, la narrativité va la définir carrément comme une espèce d'impulsion de courant qui va relier à l'intérieur d'un système de récit, comme l'est le roman finalement. On va dire un roman, c'est souvent pas un récit unique, mais toute une enfilade de récits, de types de narration différentes, même de types de représentations différentes. Bien, dans ces objets, il y a Ulysses de Joyce, par exemple. Donc, toute cette multitude de discours. Donc, par quel courant vont-ils être reliés à l'intérieur d'une même traversée, d'une même lecture? Donc, pour lui, c'est ce qui devient la narrativité. Donc, cette espèce de courant de fond qui fait cohabiter dans la lecture plusieurs types de discours de formats hétérogènes. Et je pense que ce qui devient intéressant, à l'inverse, à partir de la narrativité comme qualité, même comme qualité très, très instinctive, c'est finalement d'aller retrouver, si on pense à la photo narrative des années 70, donc ça c'est une photo de Martha Rosler, un montage de Martha Rosler qui à l'époque a été présentée en 73 et en 74, il y a eu deux expos à New York qui étaient story et narrative, auxquels participaient, entre autres, Rosler, Christian Boltanski, etc. Et donc, c'est vraiment le début un petit peu d'une pratique. Le titre de la photo est The Bowery into Incorrect Descriptive Systems. Donc, c'est des photos de la Bowery à New York en même temps avec cette espèce de mécanisme. Et toutes les expos, toutes les montages photos de cette expo-là, de ces deux expos-là, fonctionnaient un peu de la même façon, c'est-à-dire mélange du texte et de l'image. Je suis encore en train d'utiliser image. Donc, mélange de photos et de texte, soit juste à côté, soit séparé dans la galerie, en travaillant sur notre réflexe un peu bédéistique, d'une certaine façon, de voir l'un comme la légende de l'autre et devant s'expliquer. Et bien sûr, en mettant des textes et des photos qui s'expliquaient nullement l'un et l'autre. Donc, il y avait déjà cette espèce d'impulsion-là, à l'époque, de dire déjà, même si il n'y a pas de lien direct, on est déjà à solliciter des mécanismes d'interprétation qui vont en créer un. Et dans cette espèce de séquence minimale et un peu défaite-là, il y a une forme de narrativité. Donc, d'une certaine façon, si on accepte qu'on vit dans une culture où la séquentialité existe, on pourrait dire, j'en ai pas amené, on aurait pu dire la même chose, par exemple, des grandes toiles BDX de Roy Lichtenstein, par exemple. C'est-à-dire, à partir du moment où on reconnaît là une image qui emprunte au code de la BD, qui normalement, culturellement, habituellement, se présente en succession et en multitude, on peut se dire, à bien des égards, que la narrativité serait cette espèce de qualité évanescente et reconnaissable pour un public vivant dans une culture où cette séquentialité-là existe, une fois qu'elle a été retirée de la séquence. Et je pense qu'instinctivement, c'est souvent ça qu'on va voir et qu'on se dit quand on parle d'une peinture ou d'une photo très, très narrative. C'est cette espèce de latence en face d'une séquence qui est seulement, dans ce cas-là, virtuel. On n'a qu'un fragment, mais on a l'impression que ce fragment-là pourrait s'inscrire dans une séquence et que cette séquence-là, on peut être à même de la produire pratiquement nous autres mêmes, ce qui est un peu l'exercice auquel je faisais référence tout à l'heure. Donc, pour moi, c'était peut-être le premier point de dire, donc, d'imaginer déjà, et ça reste à faire, cette espèce de narrativité vraiment résiduelle, cette idée de narrativité résiduelle, latente, virtuelle, qui serait, à bien des égards, très contemporaine et qui, pour moi, vaut la peine d'être pensée. À côté de ça, il y a bien sûr la question donc du storytelling que j'évoquais tout à l'heure, où, dans le monde francophone, donc je faisais référence au livre de Christian Salmon, Storytelling qui date de 2008, où là on est plutôt dans l'analyse pratiquement des formes contemporaines de la propagande. Hein. Donc ce que fait Christian Salmon grosso modo dans Storytelling, c'est analyser comment le discours politique à la suite du discours publicitaire s'est emparé de formes de mise en récit dans ces mises en marché, ces discours de campagne, de façon, je le cite, à transformer souvent le consommateur en espèce de personnage d'un roman dont vous êtes le héros ou à tout le moins dont vous êtes le participant. Donc il va beaucoup faire référence, il analyse beaucoup dans ce livre-là la campagne présidentielle de 2007 en France, par exemple, où entre Ségolène Royal et Sarkozy, on avait eu droit à cette espèce de mise en récit continuelle. Et là, c'est un peu plus mon analyse que la sienne, parce que je trouve qu'avec storytelling, on dirait qu'en adoptant le terme de storytelling anglais, bon, ce qui est très français de donner un titre anglais à un livre français, mais bon, on s'entend, il fait un peu l'économie d'un renvoi à la théorie du récit telle que l'ont pensé les études littéraires, et il n'aborde pas beaucoup. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, c'est cette question-là, en revenant un peu à la distinction que faisait Genette, lui, en récit et discours, c'est qu'en ramenant les deux ensemble, le storytelling, finalement, ce qu'il va faire, c'est apposer au discours des formes téléologiques, finalement, donc une espèce de direction vers une fin, et ça s'est fait à droite comme à gauche. Donc la campagne initiale d'Obama fonctionnait entièrement sur le storytelling, c'est-à-dire je suis né au Kenya, je suis l'incarnation du rêve américain, j'ai été maire de Chicago, il m'est arrivé ci, ça, et bien sûr on arrive à la fin où la conclusion du récit, c'est bien sûr je deviens président des États-Unis, si vous me l'autorisez. Donc, quand je dis récit dont vous êtes le héros, dont vous êtes le participant, ben, on arrive à ce moment où les fins du discours ne sont pas trouvées à l'intérieur même du discours, mais dans leur réalisation concrète. Et bien sûr, dépendamment de ce qui se passe, donc pour Obama, pour Sarko, à l'époque, ça a bien marché. Quand ça marche moins, ben, on se rend compte que le roi ou la reine est nu énormément dans le cas d'Hillary Clinton en ce moment. Et à l'inverse, on se rend compte que ça peut marcher avec l'envie de donner aux gens de rendre l'Amérique grande à nouveau. J'ai fait cette blague-là à un douanier cette semaine aux États-Unis. Je ne le referai plus jamais. Je me demandais ce que je vais faire aux États-Unis. Faites-la pas, ça peut prolonger indûment votre passage à la colle. Donc, hein, toute cette espèce d'idée-là du storytelling qui, même après 2008, donc on le voit aujourd'hui, donc je faisais référence à Chief Stable, mais il y a vraiment, donc, à la fois dans la cuisine, dans les mises en marché d'à peu près tous les produits, cette idée-là aujourd'hui qui est chère au design, qui est chère au service à la clientèle, à l'architecture, au discours des grandes compagnies essentiellement, donc de troquer ce qui serait de l'ordre d'un discours purement informationnel ou même d'un discours visant à convaincre, visant à vendre une mise en récit, une narration. Et donc, là, pour moi, c'est peut-être le moment où j'en viens, et c'est plutôt de l'ordre d'un questionnement pour moi à l'idée d'une dimension critique à réactiver. Et là, il y a peut-être quelque chose pour nous, littéraires, à interroger carrément, c'est-à-dire à quel point, finalement, en n'allant pas expliquer, se reposer la question des mécaniques du récit dans un cadre aujourd'hui qu'on peut décrire, bon, il y a ce nouveau buzzword aussi qui est l'idée du post-factuel. Hein, donc, à partir du moment où on est constamment en train de vouloir brouiller ces cartes-là, hein, donc il y a un chiffre très important de la dernière campagne présidentielle américaine, c'est que les candidats, les partisans de Trump ont partagé plus de fausses nouvelles que de vraies nouvelles pendant les 6 mois de la campagne. Donc, il y a quelque chose d'assez important qui se passe là, quelque chose à noter. Comment, finalement, on en revient à cette idée peut-être d'aller pragmatiquement ou sémiotiquement en revenir à une explication du rôle potentiellement créateur et déformeur de réel que possède le récit mis en œuvre. Et c'est là que je voulais vous montrer cette belle vidéo. Attendez, qui résume un peu ce qui arrive au final avec le storytelling, tout, la narrativité tous azimuts.
When it comes to pitching, you need to be a good storyteller. You know, they feel like you're trying to sell them something, they're going to clam up. But if you tell them a good story, they want to connect with you.
I think graphic design is about telling stories, visual stories, words and images coming together to tell a story that you can see.
I was pair programming recently and had a bit of a revelation. Programming is just like storytelling. You're telling a story to the computer, except with code.
Customer service is all about storytelling. We will get that to you within 4 hours. That's a story.
That's a lie.
We appreciate your feedback. Big story. We'll keep your feature request in mind. Come on. People eat that stuff up.
For me, the term storytelling is a little played out as a buzzword. The thing now is storyscaping. That's like landscaping, but with words. I'll give you an example. Once upon a time, there was a magical land called Silicon Valley with creatures like unicorns and elves and venture capitalists and wistful little boys would travel there when they had good ideas about how to help people and make their lives more convenient and float on clouds. But sometimes the little curly-haired boys would go into rooms with dragons, and those dragons would say things like, "There's already an Uber," and then the little boy would have to say.
Donc voilà pour le troisième sens du storytelling qui est bien sûr dans le vocabulaire, on l'a en français comme en anglais, c'est-à-dire de ne pas se faire raconter d'histoire, donc de la narrativité comme une façon chic de dire bullshit ou mentir. Donc merci beaucoup.